autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour casser les codes aujourd'hui et en élaborer d'autres grâce à la cryptologie, la science du secret, la science des codes secrets, omniprésente aujourd'hui dans nos vies numériques. Nous échangeons chaque jour sur Internet, avec nos téléphones portables et nos cartes à puce, des milliards de messages chiffrés, réputés inviolables, mais le sont-ils vraiment? Peut-on avoir confiance dans nos clés de sécurité? Faut-il changer les codes? Avec la montée en puissance, notamment des crypto-monnaies, de la blockchain, et surtout l'arrivée annoncée, mais pour quand, des ordinateurs quantiques qui pourraient bien changer la donne, à la fois pour les cryptographes qui élaborent les codes et pour les cryptanalystes qui cherchent à les briser. Décryptage en direct avec notre invité, pionnier et acteur majeur de la cryptologie, le professeur Jacques Stern de l'ENS et du Collège de France, médaillé d'or du CNRS pour ses découvertes en cryptographie comme en cryptoanalyse. Autour de la question « Jusqu'où nous entraînera la cryptologie ?» Bienvenue au cœur de cette science du secret qui n'est plus seulement l'apanage des services secrets.
J'ai encore besoin de quelques minutes pour finir de coder et on pourra récupérer toutes les informations dont Phénomène a besoin. Oui, maman ?
Oui, ma chérie, dis-moi, on a un souci à la mairie, on n'arrive plus à accéder à nos logiciels. On nous demande une rançon. On paye ?
Non, surtout pas. Vous débranchez les ordinateurs et vous contactez votre prestataire informatique. Et vous informez Nancy.
Ah ben, elle dit qu'il faut débrancher le truc.
Maman ?
Maman, je te laisse, j'ai du boulot. Bisous.
C'était votre maman ?
Oui. Enfin, non. C'est maman. C'est le nom de code du nouvel agent.
Je connais pas.
Quand le Bureau des légendes se met au service du gouvernement, cet étonnant spot pour nous alerter sur les failles de sécurité m'a semblé de circonstance pour vous accueillir, professeur Jacques Stern, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, en studio en vrai, masqué et derrière du plexiglas, mais en vrai quand même. Vous êtes le grand spécialiste de la cryptographie. Certains disent que vous êtes le père de l'école de cryptologie française, médaille d'or du CNRS, professeur d'informatique à l'École normale supérieure, professeur au Collège de France. Votre contribution a été majeure, Jacques Stern, à la fois en cryptographie, vous avez proposé de nouvelles méthodes d'authentification, mais aussi en crypto-analyse. Vous avez réussi à casser de nombreux codes réputés inviolables et ce, dès 1997, vous avez craqué un code d'IBM réputé inviolable et que vous avez réussi à violer, car le mathématicien, logicien que vous êtes, s'est intéressé très tôt à la cryptologie, à cette science des codes secrets qui a d'abord été un art. Qu'est-ce qui vous a attiré, Jacques Stern, vers la cryptologie?
Eh bien, au milieu des années 70, il y a eu une véritable révolution dans la cryptologie. La cryptologie, c'est une science ou un art extrêmement ancienne ou extrêmement ancien, mais il y a eu donc un changement. C'est un changement qui est apparu alors que j'étais disponible, j'avais terminé une thèse de logique mathématique et j'avais, me semble-t-il, les outils pour rejoindre cette nouvelle discipline, une discipline en émergence. Et je souhaitais le faire parce que, vous savez, en mathématiques, bien souvent, on travaille pour les siècles qui viennent. Et d'ailleurs, parfois, ça marche. Les découvertes des années 70 en cryptologie reposent sur des mathématiques qui avaient été élaborées deux siècles auparavant. Mais moi, j'avais à cette époque-là envie d'entrer dans quelque chose qui probablement aurait des applications très bientôt. Et c'est pour ça que j'ai fait à ce moment-là ce choix.
Vous vous en doutiez des applications que ça aurait? Est-ce que c'est aussi un défi? Je pense que vous devez aimer les codes et ce genre de questions, ou les défis également. Est-ce que vous vous en doutiez? Vous dites, j'avais envie d'applications assez rapides. C'est une révolution qui s'est produite avec la cryptologie, on va y venir.
Oui, et dire que je m'en doutais, ce serait présomptueux, donc je vais m'abriter derrière d'autres de collègues. Je prends le premier article, l'article fondateur de la discipline au sens moderne, article de Whitdiffy et Marty Hellman, 1976. Et il est intitulé « De nouvelles perspectives en cryptologie ». Je traduis le titre. Et vous prenez le premier paragraphe et il vous dit « Nous sommes à l'aube d'une révolution ». Et vous continuez à lire dans les deux premiers paragraphes, même pas la fin de l'article. Qu'est-ce que vous trouvez ? Eh bien, vous trouvez le développement exponentiel des moyens informatiques. Vous trouvez les réseaux de communication mondiaux. Vous trouvez déjà la nécessité d'avoir un système de distribution de clés qui permette de travailler alors qu'on est l'un et l'autre de deux interlocuteurs au bout de la Terre, et vous trouvez la nécessité d'une signature électronique. Donc tout est dit.
Tout est dit dès 1976. Alors qu'est-ce que c'est que cette science du code secret, que cette science de la cryptologie ? Vous avez parlé, on a parlé de code, on a parlé de clés. C'est tout ça à la fois. Comment est-ce que vous définiriez cette science de la cryptologie qui est aussi quand même une course aux armements entre cryptographie et cryptoanalyse, entre élaborer des codes et puis les craquer ?
La cryptologie, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'assurer dans les communications et les transactions un certain nombre de fonctionnalités, la confidentialité, vous voulez le secret, l'authenticité, vous voulez que les interlocuteurs ou les machines soient bien identifiés, et l'intégrité, vous voulez pas qu'on ait changé quelque chose dans votre communication. Donc ça, c'est la définition. Après, vous avez raison, si on regarde les choses de façon dynamique, aussi bien dans l'histoire un peu ancienne que dans la période moderne, c'est aussi une lutte, défense et attaque, glaive et bouclier. Il y a ceux qui conçoivent des protections, il y a ceux qui essayent de les déjouer. Mais il ne faut pas trop se méprendre sur ce sens de lutte. C'est maintenant une lutte pacifique, c'est-à-dire que les uns et les autres travaillent dans la même direction. Ceux qui proposent des algorithmes, bien sûr, c'est pour assurer les fonctionnalités, confidentialité et autres. Et ceux qui les attaquent, ça n'est pas principalement pour en tirer un avantage stratégique ou économique, mais c'est en mettant les protections au défi pour en trouver des faiblesses et pour que l'ensemble du système puisse s'améliorer.
Voilà pourquoi vous, cryptologue, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, spécialiste en cryptologie, vous faites à la fois de la cryptographie, vous élaborez des systèmes de sécurité novateurs à chaque fois, et de la crypto-analyse, vous essayez de les craquer jusqu'au bout, et parce qu'au fond, il n'y a pas d'inviolabilité non plus, totale, absolue. Le secret absolu, c'est quoi ? C'est le Graal des cryptologues ou ça n'existe pas ?
Le secret absolu, c'est le Graal des cryptologues, mais ça existe, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Pour résister complètement à toute attaque possible, il faut imaginer utiliser une clé qui soit tirée au hasard et qui soit au moins aussi longue que le message à chiffrer. Alors, quand vous avez maintenant des gigaoctets à chiffrer, c'est totalement impraticable. Et en plus, cette clé, vous devez l'utiliser qu'une fois. Parce que si vous l'utilisez deux fois dans l'histoire, on a vu que ça ouvre une brèche.
Et ça pouvait être intercepté.
On peut déchiffrer l'ensemble de deux messages s'ils ont été codés deux fois par le même système qu'on appelle le système du chiffrement une fois. Donc, nous mettons en place des protections qui reposent principalement sur la difficulté qu'un adversaire a à briser ces protections parce que, pensons-nous, elles nécessiteraient, pour être briser une puissance de calcul qui est énorme et, pensons-nous, l'adversaire ne dispose pas de cette puissance de calcul. Voilà comment la cryptologie agit. Mais Attention, même si ce n'est pas une protection inviolable, c'est certainement la protection la plus solide de celle qu'on peut imaginer. Parce que si on y pense, quelle est la première faille? Ben, la première faille, c'est l'utilisateur. Quelle est la deuxième faille? C'est une mauvaise implantation de la cryptologie. Quelle est la troisième faille? C'est de travailler avec une machine, par exemple un smartphone, dont vous pensez qu'il est votre possession, que vous êtes le seul à l'utiliser et que, précisément, il a été victime d'une intrusion, et ainsi de suite. La cryptologie arrive à la fin, c'est le verrou, et ce verrou est solide, et la sécurité est acquise pour autant que la chaîne, globalement, réponde présente en termes de sécurité.
On le voit, les failles sont nombreuses autour de la question jusqu'où nous entraînera la cryptologie, mais c'est justement votre métier que d'essayer de faire avec ou de les éviter. Vous avez parlé de cette révolution dans la cryptologie dans les années 76, 78, cryptologie asymétrique, mais en 77, il y a la révolution majeure que vous citez dans votre ouvrage, La cryptologie au cœur du numérique, dans la collection Les grandes voies de la recherche CNRS édition. Je vous propose, Jacques Stern, d'écouter Ronald Rivest, l'un des inventeurs de ce chiffrement RSA qui a tout révolutionné. R pour Rivest, S pour Shamir et A pour Adelman. Dans cet extrait donc d'une vidéo datant de 2018 dans lequel intervient donc Ronald Rivest, mais également le pionnier d'Internet Vint Cerf, co-inventeur du protocole TCP/IP. On écoute d'abord Ronald Rivest.
La cryptographie est importante parce que nous avons besoin de secrets et de confidentialité. Lorsque vous envoyez un numéro de carte de crédit sur un site web, vous voulez être sûr que personne ne va l'intercepter. Lorsque vous faites une mise à jour de votre logiciel, ce logiciel est authentifié par le distributeur, et donc vous pouvez dire que le logiciel que vous téléchargez est le bon. Le chiffrement RSA est important car c'est un des meilleurs moyens d'atteindre ses objectifs. Je travaillais avec Stephen Boyack quand il est tombé sur l'article de Diffie et Hellman qu'il m'a donné en me disant « Ron, je crois que ça va t'intéresser ». Effectivement, ça a aussi beaucoup intéressé Adi et Len. Ce qui nous réunit tous les trois, c'est que nous adorons résoudre des problèmes. Et c'est vraiment le genre de problème que l'on rencontre très souvent en informatique théorique et computationnelle. Quelqu'un nous demande si on peut calculer ceci ou cela de la manière la plus efficace possible. Parfois la réponse est oui, parfois la réponse est non, et il y a beaucoup d'interactions possibles entre les deux réponses.
Ils avaient cette idée que l'on pourrait, au lieu d'utiliser les mêmes clés pour crypter et décrypter, construire un système asymétrique. Un type de clé crypte l'information et un autre type de clé la décrypte. C'est un peu comme avoir une boîte avec deux serrures différentes. Vous pouvez verrouiller l'une d'entre elles, mais la clé ne déverrouillera rien. C'est seulement l'autre clé ensuite qui la déverrouillera.
Le chiffrement RSA a contribué à la croissance d'Internet en fournissant une boîte à outils pour la sécurité dont les gens peuvent se servir pour assurer à la fois la confidentialité et l'authenticité de plusieurs façons différentes. Le système RSA a été intégré dans les messageries électroniques et dans la plupart des protocoles de communication de base de l'Internet. Nous n'avions aucune idée de l'impact que cela aurait. En fait, à l'époque, il était difficile de prédire l'impact à la fois théorique et l'impact pratique du travail que nous faisions.
Ronald Rivest, l'un des trois inventeurs du chiffrement RSA sur lequel sont basées, toujours aujourd'hui, Jacques Stern, toutes nos transactions, ou presque.
Oui, d'abord, c'est avec plaisir que j'ai écouté la voix de Ronald. Puisqu'en ce moment, malheureusement, j'ai pas l'occasion de le rencontrer très souvent. D'habitude, on se voit plusieurs fois par an, mais en ce moment, ça n'est pas possible. Donc, ce qui a été imaginé par Ronald, Adi et Len, Adelman, c'est effectivement le premier système complet de cryptologie à clé publique, la clé publique ayant été proposée par Diffie et Hellman, mais pas réalisée dans toutes ses fonctionnalités.
Une clé publique, il faut qu'on comprenne, parce que comment se fait-il que c'est une clé publique qui nous permet de garder secret nos informations?
C'est une très bonne question. Alors, pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Eh bien, avant, pour mettre en place un système d'échange chiffré, on se rencontrait une première fois, vous et moi, et on se mettait d'accord sur un mot de passe, mmh. ou qui peut être une phrase, un simple mot, ou qui peut être un numéro de téléphone, mmh. ou un ensemble de deux numéros de téléphone. Et puis on repartait, et là, tout était réglé. On avait le même numéro de téléphone, chacun de notre côté, et on l'utilisait. Donc, il s'agissait d'une et d'une seule clé qui était partagée entre deux, voire plus, mais entre deux interlocuteurs. On a entendu Vint expliquer que Diffie et Hellman ont proposé non plus d'utiliser une, mais deux clés différentes. Une pour fermer la boîte, une pour ouvrir la boîte. Alors moi, j'ai une parabole un petit peu différente de celle de Vint. Mm-hmm. Je dis, du côté public, vous n'avez pas besoin de conserver vraiment le secret, puisque vous savez ce que vous avez mis dans l'enveloppe. Mm-hmm. Donc c'est seulement du côté du récepteur qu'il faut conserver le secret, parce que quelqu'un, au passage...
pourrait prendre les informations.
Pourrait prendre des informations. Donc, le mécanisme de fermeture, c'est comme un cadenas. C'est une serrure, mais dont on n'a pas besoin de connaître, de garder secret
la clé.
Et de l'autre côté, par contre, il faut absolument que ce soit secret. Et eux, ils ont réussi à réaliser la parabole du cadenas qu'on peut fermer et pour laquelle il faut une clé pour ouvrir. Ils ont réussi à le faire avec deux clés. L'une qu'on appelle clé publique parce qu'en fait, elle est publique. Et il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'elle soit publique puisque vous connaissez
le contenu que vous envoyez. Peu importe.
Vous fermez le cadenas. Et de l'autre côté, il faut évidemment enfin pouvoir ouvrir avec la clé, mais la clé qui correspond bien à la serrure du cadenas. C'est-à-dire que pour chaque personne, il y aura un cadenas différent et une clé privée ou secrète différente.
Est-ce qu'il s'agit, on dit que c'est la science du secret, la cryptologie, est-ce que c'est la science du secret ou est-ce que c'est une science de la confiance ? Que finalement, la question se pose à la lecture de votre livre et quand on entend des spécialistes en cryptologie.
On peut dire que dans l'histoire, c'était une science du secret. Essayons d'imaginer le Moyen-Âge, la Renaissance et même avant... les ecclésiastiques se promenant en Europe recevaient des instructions de leurs autorités à Rome et il fallait bien que ces indiscrétions échappent même aux puissants.
Donc il fallait
crypter. Donc cela, ils voulaient le secret. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas le secret pour le secret, nous voulons le secret pour préserver un certain nombre d'informations que nous ne souhaitons pas diffuser ou qui serait dangereux de diffuser au cas où...
Elles arrivent dans des mains malveillantes, c'est ça.
Précisément, hein. Vis-à-vis de tiers malveillants. Et donc, la cryptologie vous permet, et l'exemple était donné dans l'interview de Ron, vous permet par exemple de confier quelque chose que vous n'avez pas envie de confier, comme votre numéro de carte de crédit, vous permet de confier... cette donnée et d'avoir la garantie que cette donnée est protégée. Donc, c'était la science du secret, c'est devenu la science de la confiance.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera la cryptologie, donc ce science du secret dans l'histoire devenue science de la confiance. Vous avez justement eu envie de remonter un peu le temps aux sources de ce bal masqué signé Verdi, extrait de l'opéra du même nom, le bal masqué donc, interprété par Pavarotti sur RFI. C'est pour vous, Jacques Stern. Pavarotti dans le bal masqué de Verdi sur RFI. Pourquoi ce choix musical? Parce que c'est masqué et parce que vous aimez l'opéra, cher professeur Jacques Stern?
Non, pas seulement. D'abord, ça me fait plaisir d'écouter l'opéra. J'aime beaucoup l'opéra. Mais aussi, j'ai cité le bal masqué, pas dans le livre qui nous réunit, mais dans un précédent. Parce que je cherchais un exemple.
La science du secret, hein, c'est ça, par Gilles Jacob.
Tout à fait, la science du secret. Parce que je cherchais un exemple dans la littérature ou la musique de quelque chose qui ressemble à la cryptologie. Alors, dans la littérature, il y a un certain nombre de textes chiffrés, mais c'était un peu compliqué à expliquer, un peu ça nous entraînait un petit peu loin. Mais dans le mal masqué, il y a les conjurés, et précisément comme c'est un bal masqué, ils ont besoin de se reconnaître, et pour se reconnaître, ils ont un mot de passe. Une clé secrète.
Comme quoi, voilà, une clé secrète qui n'a pas toujours été chiffrée autour de la question jusqu'où nous entraînera la cryptologie. Allez, on s'arrête sur un autre volet de cette science des codes secrets avec une nouvelle question soulevée par mon confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll.
Est-ce que des nouvelles études et techniques en cryptologie peuvent nous aider à traduire, à connaître, à comprendre les écritures qui sont encore inconnues pour l'homme? Je pense par exemple à l'écriture de la civilisation de l'Indus qui reste indéchiffrable.
Votre réponse, Jacques Stern?
C'est une question extrêmement intéressante et qui ouvre beaucoup de réflexions sur la parenté entre les écritures non encore déchiffrées et la cryptologie. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre, La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture, qui est écrit par une chercheuse italienne qui s'appelle Silvia Ferrara. Et elle montre bien qu'il y a une véritable analogie entre le travail du cryptanalyste, celui qui essaye de passer d'un texte chiffré au texte clair sans avoir aucune clé, et les travaux de ceux qui, comme Champollion, ont réussi à lire des écritures anciennes, Champollion, les hiéroglyphes, et puis plus tard, le linéaire B, donc, qui a été chiffré, si l'on peut dire, par un architecte anglais, Michael Ventris. Et ce linéaire B, et il transcrivait, semble-t-il, une forme de grec ancien.
Alors, moi, les décrypteurs, quoi, parce que vous êtes mathématicien. Quand on parle de cryptologie aujourd'hui, on parle de codes chiffrés, mais ça peut aussi bien servir à décrypter. Vous avez rappelé que les codes autrefois étaient des mots, des lettres, des langages, enfin, voilà, à décrypter. Tous nos codes, et même les plus anciens.
En un sens, oui, mais vous voyez bien que ça n'était pas un mathématicien qui avait fait ce travail. Champollion, c'était un égyptologue, et Ventris, c'était un architecte. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les chercheurs qui travaillent. Il y a des écritures qui ne sont pas encore déchiffrées, notamment celui qui a été cité par votre confrère. Et également le linéaire A sur lequel Silvia Ferrara travaille. Et ils sont face à un problème que rencontrent les cryptanalystes, même si les méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils sont face au problème qu'ils n'ont pas assez de données. Et si on n'a pas assez de données, on a beaucoup de mal à déchiffrer, que ce soit un texte, une écriture, ou que ce soit ce qu'on appelle un cryptogramme, c'est-à-dire un texte chiffré. Donc, je ne peux que leur souhaiter beaucoup de chance et beaucoup de courage.
C'est ça, parce qu'ils n'ont pas assez de données, un peu comme alors un autre pionnier, Alan Turing, qui a réussi à déchiffrer Enigma, le code des inventions. Parce qu'en fait, il faut arriver à avoir assez de... Enfin, décider d'un certain nombre de... Il faut avoir un certain nombre de données et il faut avoir une puissance de calcul considérable. Si je le dis comme ça, c'est juste ou...
C'est juste, je ne suis pas certain que ce soit juste pour les écritures secrètes, parce que ce n'est pas ma spécialité, ouais. Mais c'est juste en tout cas pour les textes chiffrés. Il faut savoir un peu ce qu'on va trouver, un tout petit peu. Et notamment Turing, quand il travaillait sur le décryptement de l'énigma, eh bien, il travaillait avec une méthode qu'on appelle la méthode des mots probables, c'est-à-dire que les grands stratèges allemands étaient sans doute très prudents, mais ceux qui envoyaient le premier message du matin, eh bien, ça commençait par bulletin météo du temps. Et donc, Turing, il savait que on était en train d'écrire bulletin météo du temps. Et bien sûr, à chaque fois, c'était transcrit dans une forme d'autre langue. Donc, il y a cette analogie, effectivement.
Il faut savoir quand même un peu ce qu'on cherche.
Il faut savoir ce qu'on cherche.
Et il faut être malin, il faut aimer résoudre des problèmes. Vous aimez résoudre des problèmes et des énigmes, j'imagine, Jacques Stern. Même pas tant que ça.
J'aime bien aussi résoudre des problèmes et des énigmes, mais je ne suis sans doute pas aussi patient avec les problèmes et les énigmes qu'avec les questions qui ont une formulation mathématique.
Autour de la question jusqu'où vous nous entraînerez avec la cryptologie, cher Jacques Stern, je propose un nouvel éclairage. C'est celui du mathématicien et député Cédric Villani, qui a été votre élève à l'École normale supérieure, qui met en place en ce moment le plan quantique. On y viendra peut-être à propos de ces fameux ordinateurs quantiques qui vont peut-être encore devoir, auxquels la cryptologie va devoir s'adapter ou se révolutionner. En tout cas, Cédric Villani a tenu à vous adresser un petit message et même une question au micro de notre reporter Caroline Fillette.
Très heureux de retrouver Jacques Stern. Vous savez que ça a été mon enseignant de logique il y a de cela presque 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, quand j'étais jeune élève. Et depuis, Jacques a continué la brillante carrière qu'on sait, que ce soit dans les autorités étatiques ou dans les cabinets ministériels ou à l'université. Moi, j'ai une question qui relie la logique et l'informatique. Ces dernières années, on a tellement parlé de l'intelligence artificielle et de ses résultats, et en mettant beaucoup l'accent sur les algorithmes, sur quelque chose de mathématique, dans lequel les architectures informatiques n'avaient que peu de rôle. Et en même temps, on le voit bien dans le débat sur l'informatique quantique, on le voit bien dans d'autres débats qui arrivent sur la façon dont se font les calculs, des choses qui se font à un niveau plus bas que les calculs d'intelligence artificielle. On se dit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et à découvrir en matière d'architecture et de construction des systèmes, des organisateurs. Dans quelle mesure la logique moderne, contemporaine, et plus généralement les mathématiques fondamentales, disons, ont un rôle à jouer là-dedans. On sait que les deux sont indissolublement liés, qu'au moment de la naissance de l'informatique moderne, les logiciens étaient en première ligne, dans la lignée des Turing, Church et autres. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ?
Votre réponse, Jacques Stern, les logiciens comme vous d'ailleurs, sont-ils toujours en première ligne en cryptologie aujourd'hui ?
Avant de parler de cryptologie, je voudrais répondre à Cédric sur le lien entre la logique et l'informatique. La logique, c'est la mathématisation du raisonnement. Et l'informatique, pour moi, c'est la mécanisation du raisonnement. Donc, c'est presque la même chose. Et c'était naturel, et Cédric l'a souligné, que les géants de la logique puisse à l'époque s'intéresser à l'informatique en étant des contributeurs ou encore mieux des précurseurs. On peut penser à Turing, on peut penser à Gödel, on peut penser à von Neumann. Sur la crypto, le lien est à la fois une parenté et une sorte de hasard de l'histoire. Parenté parce que les logiciens ont mis en évidence des problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Et les cryptologues travaillent sur des problèmes qu'il est difficile de résoudre, sauf si on dispose d'une quantité de puissance de calcul énorme. Et c'est ça qui peut créer les protections et qui peut apporter la sécurité. Alors, le hasard, c'est le nom de Turing, puisque Turing est à la fois un grand théoricien, un grand logicien qui a inventé une machine informatique abstraite et qui s'appelle la machine de Turing, et c'est aussi un de ceux qui ont participé avec succès au déchiffrement des codes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, je crois que la logique peut continuer à jouer un rôle important vis-à-vis de l'informatique, mais je ne suis pas certain qu'on aille au niveau de la cryptologie beaucoup plus loin que cette parenté et ce hasard que j'ai mentionné. En informatique, eh bien, Cédric a parlé d'intelligence artificielle. L'un des points essentiel, c'est que pendant longtemps, on a fait de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la mécanisation du raisonnement, en s'appuyant sur la mathématisation du raisonnement.
Et puis, sur les algorithmes.
Sur les algorithmes et sur la pensée logique. Et puis, récemment, on a fait un pas formidable avec de toutes autres méthodes qui viennent également des mathématiques, mais d'une autre partie des mathématiques, en utilisant de grandes masses de données, en apprenant avec ces grandes masses de données et ensuite en tirant des conclusions. Eh bien, moi, ce que je crois, pour répondre à Cédric, c'est que ce qu'on attend maintenant, c'est de réconcilier les deux approches, c'est-à-dire de faire quelque chose qui fasse de l'intelligence artificielle, à la fois en utilisant d'un côté la puissance des statistiques sur les masses des données, mais en ne perdant pas non plus la capacité de faire des raisonnements et que ce ne soit pas juste de l'analogie à partir de grandes bases de données, mais une partie d'inférence. Je crois que c'est le défi de l'intelligence artificielle.
D'arriver à relier les deux, d'autant plus important, on va y venir, que ce profil, alors c'est un peu l'arlésienne, mais les ordinateurs quantiques, qui auront une puissance de calcul tellement formidable que vos crypto-analyses ne pourront peut-être pas y résister. Qu'en pensez-vous, Jacques Stern ?
Alors, l'ordinateur quantique.
L'arlésienne ou...
Là, c'est toute une histoire, au moins. Donc, essayons de bien comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de quantique et qu'est-ce qu'il y a de classique, c'est-à-dire de non quantique ? L'ordinateur classique, celui que nous utilisons aujourd'hui, vous et moi, nous tous, eh bien, il fonctionne sur des unités logiques qui sont des 0 1. Des suites de 0 et de 1, ou de vrai-faux, si vous préférez appeler vrai-faux 0 et 1, ou 1 et 0. L'ordinateur quantique, il travaille sur des unités logiques qui proviennent de la physique quantique, de la physique de l'infiniment petit, et qui sont ni tout à fait des 0, ni tout à fait des 1, mais à la fois des 0 et des 1, des superpositions de 0 ou des 1. Alors, nous appelons les 0 et les 1 des bits, et eux, ils appellent ces superpositions des qubits. Bon, alors, c'est fascinant. C'est fascinant, et ça peut ouvrir la voie à des découvertes prodigieuses.
Ça peut changer complètement notre monde.
Mais c'est aussi quelque chose de très difficile à manipuler, les qubits. Et on revient finalement, en arrière aussi. Parce que les 0 et les 1, c'est, on le voit aujourd'hui avec l'importance des microprocesseurs, c'est des choses qu'on sait manipuler pratiquement sans erreur aujourd'hui. Les qubits, c'est quelque chose qui nous ramène, par exemple, à la radio analogique. Nous faisons une radio qui est certainement numérique.
Qui est numérique, absolument,
sans erreur.
Je vous confirme.
Mais là, nous sommes dans un monde continu. Et donc, il va falloir une capacité de correction d'erreur qu'on n'a actuellement pas du tout. Les qubits,
d'accord,
on ne sait pas
donc
pour l'instant
pas
les manipuler.
Donc, on n'est pas prêt de
Donc,
de,
on
de
ne
pouvoir...
sait pas quand l'ordinateur quantique sera construit. On ne sait même pas si un tel ordinateur pourra être construit massivement. Et pour ce qui est de la crypto, parce que, bien sûr, l'ordinateur quantique, on a prouvé que si on sait le construire, alors le RSA dont nous parlions tout à l'heure, il sera susceptible
d'être craqué, en fait, par cette puissance de calcul,
d'être cassé. Cassé, contourné. Et donc, ce RSA, il devrait, à ce moment-là, être remplacé. Alors, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Le record dans la direction du RSA, c'est la capacité pour un ordinateur quantique de nous dire que 21, c'est 7 fois 3. Nous sommes bien d'accord.
Oui, jusque-là. Mais là, j'ai peut-être pas besoin d'un ordinateur quantique pour ça. Hein. Vous êtes d'accord.
On va dans une classe où il y a des petits-enfants et on a le même résultat. Pour beaucoup moins de milliards que ceux que Cédric, peut-être, propose d'investir dans l'ordinateur...
Dans son plan quantique.
Dans l'ordinateur quantique. Et pour le RSA, il faudrait faire le même type d'opération, savoir d'où provient un nombre qui a été obtenu par multiplication, pour des tailles gigantesques, 500 chiffres, 1000 chiffres. Donc, il va falloir manipuler plusieurs milliers de qubits sans faire d'erreur.
On n'est pas prêt d'y arriver, nous verrons. Il y a le temps question des ordinateurs
nous
quantiques.
Nous avons un peu de temps, mais c'est un problème important. C'est parfaitement possible. Les physiciens, ils ont construit des réalisations... par exemple, avec l'optique, dans le cadre des lasers, des réalisations tout à fait exceptionnelles, et une partie de l'infrastructure de l'Internet repose sur la capacité d'expédier des photons d'un bout à l'autre de la Terre à la vitesse de la lumière.
Donc, c'est possible, on ne sait pas quand. Préparons-nous à ce monde quantique ou post-quantique autour de la question jusqu'où nous entraînera la cryptologie. On va tout de même faire une petite pause avant de pénétrer dans ce monde quantique. C'est de code amoureux dont il va être question maintenant avec Natacha Bizot sur RFI, regrettée et inimitable chanteuse camerounaine trop tôt disparue en 2017, en nous laissant donc tout de même son code secret sur RFI. En amour aussi, il y a des codes secrets. Natacha Bizot, In Memoriam, sur RFI. Autour de la question jusqu'où nous entraînera la cryptologie, nous sommes en compagnie du professeur Jacques Stern. Et s'il y a bien un domaine qui a explosé dans la cryptologie, c'est celui des crypto-monnaies et de la blockchain. La cryptologie au cœur du numérique, c'est le titre de votre ouvrage qui est paru dans la collection Les Grandes Voies de la Recherche, aux éditions du CNRS, Jacques Stern. Mais là, il s'agit vraiment d'une sacrée évolution à laquelle, moi, je dois dire que je ne comprends pas grand-chose. Et que mon confrère Alain Focard résumait ici même dans le débat africain qu'il a consacré aux crypto-monnaies. C'était le 5 mars dernier sur RFI.
On la présente comme la monnaie qui va enfin pouvoir intégrer les 80% des ménages africains qui ne peuvent avoir un compte à la banque. Certains la voient comme une opportunité pour en finir avec le diktat des institutions financières, notamment en Afrique où la monnaie est souvent si volatile. Jack Dorsey, le PDG de Twitter de retour d'une tournée en Afrique, en voyant son évolution et l'intérêt qu'il suscite sur le continent, postait un tweet enthousiaste en ces termes. l'Afrique définira le futur, particulièrement celui du Bitcoin. Il a investi avec le célèbre artiste producteur Jay-Z près de 24 millions de dollars pour son organisation en Afrique et en Inde. Le Bitcoin, c'est quoi cette monnaie virtuelle qui suscite tant d'intérêt, qui depuis son lancement en 2009 a dépassé la valeur record de 50 000 dollars? C'est vrai qu'ils sont quelques-uns à s'être enrichis au sud du Sahara avec elle. Et d'autres ont même créé leur propre Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est exactement la crypto-monnaie? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Quel crédit lui accorder? Comment expliquer sa fulgurante ascension? Est-elle fiable?
J'ai besoin de votre éclairage, Jacques Stern, parce que j'ai envie de vous reposer toutes les questions que soulevait Alain Foucault.
Eh bien, c'est une question extrêmement intéressante et l'histoire n'est pas décevante. Dès l'invention de la cryptologie à clé publique par Rives Shamir et Erlemann, un certain nombre de chercheurs ont imaginé remplacer le papier-monnaie, l'argent, les devises de l'État, par du papier, de l'argent numérique. C'était
virtuel.
La vogue de l'e-cash, l'argent numérique. Et donc, ils ont imaginé un système où vous recevez quelque chose qui est une sorte de numéro, et ensuite, vous dépensez ce numéro comme à l'aide d'une clé privée que vous aviez gardée secrète. Très bien. Oui, mais... Et si vous le dépensez deux fois? Une première fois pour acheter un livre et une deuxième fois pour aller au restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes face à ce problème de la double dépense.
Et donc, ce n'était pas possible.
Possible, mais alors il fallait imaginer une autorité qui enregistre le premier paiement et qui, une fois qu'elle a enregistré le premier paiement, dit « Ok, ce premier paiement est validé » et puis qui rejette le deuxième paiement. Et donc... Donc, finalement, on ne se passait pas
d'une autorité, centrale, en fait,
d'une banque, la banque ou... d'un État, etc. Il y a une dizaine d'années, un chercheur japonais, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, a proposé...
On connaît son nom.
A proposé, on y reviendra, a proposé un autre système qui est que il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'État, il y a ce qu'on appelle en informatique un réseau de pairs. Et ce réseau des pairs, il maintient un grand livre avec toutes les transactions qui ont été faites depuis l'origine de la création de la monnaie. Et pour inscrire une nouvelle transaction dans le grand livre, tous les participants du réseau de pairs essayent de résoudre un problème cryptographique, un petit peu comme un puzzle. Et le premier qui arrive, il a gagné, il a inscrit la transaction et il gagne une récompense. Et tout ça marche. Alors, Satoshi Nakamoto, effectivement, on ne savait pas qui c'était. Nous, spécialistes de cryptologie, on s'est dit, mais qui est ce Satoshi? On ne sait toujours pas qui est Satoshi. Donc, c'est probablement le pseudonyme d'un groupe de gens qui travaillaient... Dans un monde où on imaginait qu'il fallait se passer des États et que c'était bien plus sûr de confier à un groupe de gens la sécurité de la monnaie plutôt que de la laisser entre les mains des États. Et donc, on ne connaît pas Satoshi, mais on connaît très bien celui qui a reçu de Satoshi le premier paiement en Bitcoin. Il est d'ailleurs décédé entre-temps. Et donc... Une des idées de Satoshi et du groupe de gens, c'était qu'il n'y avait que très peu de Bitcoin. Et c'est ça qui explique peut-être que ce soit devenu un actif, une sorte de devise, mais rare, puisque de toute façon, on n'en fabriquera pas plus qu'une certaine quantité.
Donc il y a une limitation à ces Bitcoins qui, ont envahi quand même aujourd'hui la planète et qui suscitent beaucoup, beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie révolution, vous qui êtes cryptologue et qui suivez tout ça de près, Jacques Stern ? Est-ce qu'il faut attendre d'autres révolutions ? On va arriver bientôt à la fin de cette émission et au fond, c'est ça que j'ai envie de vous demander. Est-ce qu'il faut attendre d'autres révolutions du type de celles qu'on a connues, que vous avez connues au cours de votre carrière, du type de RSA, du type de ces bitcoins, à part les ordinateurs quantiques ? Enfin, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres révolutions et lesquelles en cryptologie?
Alors, sur le Bitcoin, c'est sûrement une révolution d'avoir eu l'idée d'un réseau de pairs pour résoudre le problème de la double dépense. Économiquement, moi, je ne suis pas compétent pour dire que c'est un actif qui va survivre ou que c'est un actif qui
D'accord, donc ne ça, va on ne vous demande pas vos diagnostics.
Nous verrons. Quant à l'avenir de la cryptologie... Mm-hmm. qui m'intéresse plus, eh bien, je crois que cette science est encore en devenir. Parce que, bien entendu, vous parlez du Bitcoin, mais on a parlé du quantique. Mm-hmm. Et beaucoup de questions se posent. Et notamment, par exemple, si l'ordinateur quantique est construit et que le RSA n'est plus un moyen de protéger les transactions sur Internet, il faudra bien de nouveaux exemples. Et nous y travaillons, la communauté scientifique, qui est maintenant nombreuse, qui est établi dans le monde entier, y travaille pour, au fond, préparer les lendemains. Nous avons déjà un certain nombre de propositions de systèmes qui pourraient se substituer au RSA si celui-ci devait succomber.
Donc, nous ne serons pas dépourvus grâce à la communauté des cryptologues à travers le monde. Peut-être un dernier mot juste à destination de nos auditeurs. Il y a beaucoup de jeunes étudiants en sciences notamment, en informatique, en mathématiques. C'est la cryptologie. Vous leur conseilleriez, cher Jacques Stern ?
Je leur conseille en tout cas l'informatique. Je pense que c'est irréversible ce mouvement vers la virtualisation de tout ce qui se passe dans notre agora. Et la cryptologie, pourquoi pas, s'ils ont le goût d'assurer confidentialité, intégrité, et s'ils ont le goût de marier les mathématiques, l'informatique et une forme d'ingénierie assez pratique.
Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous en studio, professeur Jacques Stern. Je rappelle le titre donc de ce petit ouvrage parfaitement clair, très instructif, « La cryptologie au cœur du numérique » dans la collection « Les grandes voies de la recherche » aux éditions du CNRS et puis « La science du secret ». Ça, c'était le titre de l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Odile Jacob. Merci Jacques Stern pour toutes ces clés. Allez, je ne résiste pas à ce jeu de mots-là. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à réécouter, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Ce sera en compagnie de nos consoeurs et confrères de la presse scientifique pour notre table ronde mensuelle autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque chez vous. Chers amis auditeurs, il y aura, vous le savez, des magazines à gagner. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations. Tout à l'heure sur RFI.